Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Élise Le. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Clémentine Goldsal, Pascaline Potvin et Olivier Lam. C'est une première pour Clémentine, qu'elle soit la bienvenue dans cette émission. Sur nos platines ce soir, When Will the Flies in Deauville Drop du Vite-Juif Underground chez Born Bad Records. Darlene de Hubert Lenoir chez Simon Records. Live in London de Mavis Staples chez Empty Records. Et puis un coup de cœur, signé Olivier Lam, auquel je m'associe déjà, pour I Draw the Megahertz de Prefab Sprouts, une réédition chez Sony. Puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle 4 propositions de Benjamin Verdonck, des places à gagner pour la représentation de dimanche 17 février à 20h30 au Théâtre de la Bastille à Paris. Nous ouvrons cette dispute avec la sensation du moment, le Vite-Juif Underground. Au-delà du bon nom de groupe, on va s'intéresser au deuxième album de ce groupe, When Will the Flies in Deauville Drop, qui contient 11 titres. On ne va pas s'attarder plus longtemps, on va écouter l'un de ces 11 titres, I'm Sorry, Jesse.
Like a record thinly pressed, when the tower lights lighting up, and nearly 9 years to the day. I thought I might have gotten over it, but for you I cannot say. And whatever you are, I hope it's been erased. Time heals all wounds, here's an empty page. Except the room, the rivoli, this particular memory came back to me. And I'm sorry, JC, through the night at the Tivoli. I'm sorry, JC, through the night at the Tivoli. I'm sorry, JC, through the night at the Tivoli. I'm sorry, JC, through the night at the Tivoli. When I lost the face of you.
Le Ville Juif Underground a pas mal de supporters. En tout cas, je sais qu'Olivier Lam a, j'ai lu, vous avez clamé votre amour dans les colonnes de Libération pour ce groupe depuis ses tout débuts même. Hein.
Ça fait un moment.
Ça fait quoi, ouais. 3 ans qu'ils sont apparus?
Je sais plus exactement,
2016,
parce que
ça
fait partie des groupes de cet underground qui apparaît par petites touches, par concert, par apparition sur une compilation, cassette, etc. Il y a eu un premier album qui est sorti sur un label parisien que j'aime énormément, qui s'appelle SDZ Records. Et donc là, avec Born Bad, il passe une sorte de cap, on va dire, de notoriété, même si
et de force de frappe, même s'ils
n'ont absolument rien changé à leur manière d'être et à leur manière de. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à guetter l'apparition d'un article écrit par un collaborateur de Libé qui s'appelle Adrien Franck, qui a été les rencontrer, qui a fait un portrait très drôle d'eux dans leur fief actuel, qui est la station, qui est une salle de concert près de la porte d'Aubervilliers. Voilà.
Alors c'est quoi le Ville Juif Underground? C'est quoi cette musique qu'on entend? On entend toujours un morceau dans la dispute, mais ça donne quoi par rapport à ce morceau-là?
Ça donne beaucoup de choses qui ressemblent un peu à ça. C'est un groupe, j'ai envie de dire, laineux. Je suis en train de lire un livre là, et il y a une introduction, un roman qui s'appelle Big Bang, qui vient de paraître aux États-Unis. Je dis pas ça pour me la péter, mais
un peu quand même.
Un écrivain qui discutait avec son Jonathan Stem, qui a écrit la préface du roman, qui avait deux types de livres. Il y a les livres poilus et les autres. Il utilise le mot furry. En gros, les romans qui n'ont pas que du cœur, mais qui ont une excentricité, une sorte de folie inextricable, qui rend absolument unique à la fois leur voix et qui est inextricable, qui est inséparable de celle de leur auteur. Exemple, Raymond Chandler, par exemple, écrivait des romans furry, alors que Norman Mailer n'en a jamais écrit un seul. Voilà.
C'est clair.
Je sais pas si on peut se faire un peu une idée comme ça. Et alors là, on est vraiment en présence d'une œuvre, voilà, extrêmement poilue. C'est-à-dire, il y a une personnalité très forte qui est celle combinée de ses membres et notamment celle de son leader qui s'appelle Nathan Roach. Je sais pas comment on prononce son nom parce qu'il est australien, il vit en France depuis quelques années.
Mais bientôt naturalisé, ai-je lu.
On lui souhaite.
Il vient de se marier.
Et c'est un groupe qui s'est fondé une identité de manière extrêmement organique, notamment par le fait qu'ils vivaient ensemble dans toute une histoire autour de leur maison de Villejuif. Ils habitaient vraiment au Villejuif ensemble. Dans cette petite maison dans laquelle ils ont fait beaucoup de musique, notamment beaucoup de musique en dehors de celle faite par le groupe lui-même. Il y a un side project de Nathan qui s'appelle CIA débutante. Je vous conseille d'aller écouter ça sur internet. Et moi, je trouve qu'on est dans un truc que j'adore, une veine de la musique que j'adore, qui est ce mélange de calcul très esthète, très très dandy, et de d'impensé, de sauvagerie totale. Je dirais que c'est à la fois laid back et un peu apocalyptique. On est dans c'est Jonathan Richman, Pavement. Et y a une voix très forte qui s'exprime, qui est celle d'un groupe je trouve assez formidable, beaucoup moins branleur qu'il n'y paraît. Voilà,
c'est un mot choisi. Pascaline Potvin, autre fan?
Moi, alors, peut-être pas, enfin, je connaissais pas aussi bien l'histoire du Ville Juif Underground qu'Olivier. Pour être très franc, j'ai eu un coup de cœur énorme parce que je les ai vus en concert au Festival Eurosonic de Groningen en mi-janvier. Et j'ai adoré
ce
concert.
C'est pas pour vous la péter non plus.
Non, c'est pas pour me la péter non plus, mais.
Clémentine,
voilà.
Préparez-vous, hein. Les
moi,
gens se la pètent.
Je découvre les
dispute,
groupes français en Hollande. C'est beaucoup plus intéressant. Et j'ai trouvé ça super. Et du coup, je suis allée réécouter leur premier album, effectivement, que j'ai beaucoup aimé aussi. Le deuxième, je l'aime beaucoup. Alors c'est la même formule, c'est une formule effectivement assez simple comme ça, assez sauvage, assez un peu je m'en foutisse presque, des guitares parfois un peu titubantes, une boîte à rythme, des synthés et effectivement cette voix qui fait tout qui fait beaucoup pour le disque dans sa dans son ton, dans ce côté dandy, dans ce côté nonchalant, dans ce que ça raconte, dans sa scansion aussi. Le Villejuif Underground, je trouve que voilà, c'est il a cette formule très simple mais qui accroche, il y a presque des mini tubes parce qu'il y a un groove qui va vous choper comme ça. L'exemple qu'on a écouté en enfin le titre qu'on a écouté en est un bon exemple. Pour moi, il y a presque un groove un peu mancunien et dans la scansion donc la façon qu'a de rythmer ses paroles de Nathan Rush. Moi, ce qui m'amuse et ce que j'aime dans ce disque aussi, c'est que c'est un disque voyageur. Il y a des noms de lieux partout. Déjà, le nom du groupe, le Villejuif, Deauville dans le titre. Et bah, Nathan Rush, c'est un Australien qui vit en France, qui, je crois, a eu pas mal de problèmes avec de titres de séjour, tout ça. Et là, il y a plein de noms comme ça, de lieux qui surgissent. Tivoli, Rivoli, Pernetti, je crois que j'en oublie certains, le Bataclan, enfin... Et du coup, on a l'impression comme ça de se balader avec lui, d'un espèce de voyage. Il parle aussi de voyages, de backpackers, de problèmes de poste entre l'Australie et la France. Et ça donne quelque chose presque d'assez cinématographique. On a des images qui naissent, on a des ambiances qui donnent de la chair à un album qui pourrait parfois être un peu de la litanie. Le seul reproche que je lui ferais, c'est ça. C'est que dans cette notion de voyage, parfois il y a un tout petit peu de monotonie sur la longueur du disque. Ça m'a fait presque penser à ces dessins animés 70s, 80s. On voyait comme ça des personnages marcher au premier plan avec leur pas, en fait, comme un gif aujourd'hui, quoi, un gif, pardon, où on voit leurs jambes comme ça qui bougent tout le temps en rond, et c'est le décor qui défile derrière. Voilà, c'est le seul petit bémol que je mettrais sur ce disque, il y a un petit côté voyage immobile, mais en tout cas, globalement, c'est un voyage, quand ça bouge et quand ça bouge bien, moi, ça m'emporte complètement.
Alors, Clémentine Goldsell, vous les avez suivis en Chine, je crois.
Oui, exactement.
Ils ont fait une tournée en Chine, c'est une histoire vraie.
En 2003. Non, c'est faux. Je connaissais rien du groupe. En fait, j'avais vaguement entendu le nom qui m'avait interpellée, mais apparemment pas assez pour me faire écouter, j'ai honte. Et puis, du coup, j'ai commencé à écouter et j'ai entendu les Beach Boys. L'album s'ouvre sur un sample de Deirdre des Beach Boys qui dure pas longtemps, mais qui pour moi, du coup...
C'est pas un sample, hein,
c'est
le rejou.
Ils chantent Villejuif. Non, ils disent Villejuif, c'est ça qui est très beau.
Ils disent Villejuif ?
Bah évidemment.
Ah bon, pour moi, c'était carrément un sample. Ok, bon bref. En tout cas, j'entends les Beach Boys, une référence aux Beach Boys, et du coup, je me sens un petit peu à la maison, je suis contente. Et c'est vrai que ça m'a fait partir d'un super bon pied. Ensuite, en entendant l'album, effectivement, ce côté voyage est très émouvant. Et moi, qui suis toujours un petit peu crispée par le nombre, en ce moment, de groupes français qui chantent en anglais avec un accent terrible et des paroles ineptes. Là, j'adore l'idée de ce chanteur australien qui écrit vraiment bien, en fait. Il y a une écriture vraiment des paroles... super, qui effectivement mêle tous ces noms français, on voit tout d'un coup Pernetti apparaître dans une chanson et c'est assez génial, et avec en même temps l'idée que bon, bah, des musiciens français sont tout à fait capables de faire de produire cette musique-là derrière lui, et ça je trouve ça assez charmant. Et par ailleurs, ensuite donc du coup j'ai été un peu me renseigner, j'ai découvert effectivement cette mythologie autour de la maison de Villejuif, leur côté un peu déglingot, leurs interviews, ils veulent pas répondre aux questions, une attitude un peu Black Lips, bon, pourquoi pas. Ça, moi, ça me... Je trouve ça un petit peu ringard.
C'est de leur âge. Ils ont
non,
quel âge d'ailleurs
vraiment.
Ils sont jeunes, je crois.
Non, si jeunes que ça.
Ils sont pas si jeunes.
Vous les connaissez?
Non, non, mais alors, je les connais pas.
Vous connaissez un peu leur pédigré.
C'est pas de l'attitude, c'est de l'énergie, enfin, évidemment.
Moi j'ai vu une interview d'eux, ça m'a agacé profondément. À côté, c'était nul le conseiller, c'est parce que t'as pris de l'acide, mais moi j'ai pris de la coke et c'était nul. Enfin, ça va quoi.
C'est lié à une sorte de.
S'ils ont 19 ans, je veux bien.
Il y a pas d'âge pour faire des conneries, moi je trouve.
Pour dire des bêtises.
Moi ce que je trouve que pour le coup la musique prouve que qu'ils prennent la musique très au sérieux et il y a que ça qui compte, enfin le reste franchement reprocher un groupe de cette envergure là, parce qu'ils vivent dans cette musique et pour eux c'est du quotidien, ils rentrent pas chez eux après dans leur grande maison en grande banlieue bourgeoise, c'est donc pour le coup il y a une espèce de continuité absolue entre la musique
une sincérité,
de la pratiquer,
l'intégrité.
Et de la, je sais pas, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, moi, la sincérité.
Bah ouais, mais il a un sens.
Je pense qu'il y a une continuité vraiment dans un mode de vie, une manière d'être qui est à la fois dans la musique et dans les interviews et sans doute
et
les connards qui se racontent entre eux et sur scène. Pour le coup, on est vraiment dans un truc cette scène-là, cette infrascène, elle existe très fort en ce moment à Paris, notamment, et là, on en a une partie émergée.
Oui, je comptais retomber sur mes pieds en disant que moi, ce côté mal poli et mauvais garçon, je l'aime bien dans leur musique. Et ça, dans leur musique, j'adore ça. Ensuite, il y a une vibe un petit peu Mac DeMarco, comme ça, un côté je m'en fous, qui est hyper agréable, quoi, qui est très laid back. J'aime beaucoup ça. Et puis, par ailleurs, je trouve que la production est en fait très intelligente. Je trouve qu'il y a des effets sur les voix qui, pour une fois, sont pas de l'autotune. Je trouve qu'ils vont chercher en fait des choses qu'on n'entend pas ailleurs et qui expérimentent de manière assez intelligente et ils ont l'air de s'en foutre, mais on entend bien qu'ils s'en foutent pas du tout.
Oui, alors que ce soit des vrais musiciens qui vivent à fond la musique, que ça s'entend sur l'album, parce qu'on fait pas un album comme ça si on fait ça par-dessus la jambe, c'est assez évident, parce qu'il y a quelque chose qui est qui attrape vraiment quasiment sur chacun des titres. Moi, je partagerais un peu le sentiment de Pascaline d'un léger ennui quand même sur la durée de l'écoute.
Tous les grands disques de rock sont un peu ennuyeux.
Non, mais ça, c'est le genre de... C'est à vous de dire des bêtises maintenant, Olivier Lam. Tous les grands disques de rock sont des disques étonnants à chaque plage. même bêtise. Donc, ça, c'est un goût particulier et personnel. Mais en tout cas, ce qu'ils disent, et que je crois volontiers, mais vous en avez attesté déjà, Pascaline, c'est que eux, ils disent, c'est peut-être aussi de la pause, mais pas que, qu'ils sont un groupe de scène et pas un groupe de disques. Pascaline, c'est scène qui vous a attrapé.
C'est par là que je les ai découverts. Et alors, pour le coup, leur côté punk et foufou, pour le dire gentiment, n'était pas usurpé parce que. Je crois qu'ils sont vraiment montés sur scène quand je les ai vus dans un état pas sobre en fait, mais qui était c'était pas genre c'était pas pour faire le show, c'était vraiment genre on va en profiter, on a envie de faire la fête et on y va. Et donc il y avait ce côté complètement lâché et en même temps cette maîtrise de leurs instruments, et surtout Nathan Roche, enfin le type est super charismatique, c'est une espèce de grande tige comme ça qui bouge dans tous les sens, qui descend un moment sur scène, enfin même ces passages obligés qui peuvent être parfois un petit peu gênants parce qu'on les a vus des milliards de fois dans des concerts de rock, le chanteur qui descend de la scène qui se met à chanter avec son micro autour du cou au milieu du public, mais là ça passe, c'est... Cet exercice-là, il retrouve tout son intérêt avec un groupe comme ça. C'est vraiment un groupe de scène et j'encourage tout le monde à aller les voir s'ils passent à côté de chez vous. Quoi. C'est
alors, très, justement, très bien. Ils passeront le 29 mars à Amiens, le 30 mars à Magny-le-Hongre, ils seront le 18 avril au Printemps de Bourges. À Bourges, le Villejuif Underground, le disque s'appelle When Will the Flies in Deauville Drop. Ça aurait pu faire plus simple pour moi. Sorti chez Born Bad Records. On en reste là pour Villejuif Underground, parce qu'à suivre, il y a Hubert Lenoir et Mavis Staples, et il y a Prefab Sprout.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Alors, une autre sensation du moment pour la suite de cette dispute musicale, c'est Hubert Lenoir avec Darlene, premier album solo de ce jeune Canadien de 24 ans qui avait auparavant sorti déjà un disque avec le groupe qu'il avait formé avec son frère. Le groupe s'appelle The Seasons. Il a d'ailleurs sorti un deuxième album entre-temps, parce que Darlene est sorti au Canada il y a plusieurs mois déjà, je crois, avant l'été dernier. Enfin bon, il y a un certain temps. Darlene qui se présente comme un concept album. Ouh là là, ça fait peur ce mot. Sa sortie est concomitante avec celle d'un roman du même titre, signé Noémie D. Leclerc, l'amie manageuse d'Hubert Lenoir. On va livrer quand même quelques explications et surtout des commentaires sur l'album. On va écouter tout d'abord Ton Hôtel. Voilà pour cet extrait du disque d'Hubert Lenoir. Le disque s'appelle Darlene. Et c'est cette fois Pascaline Potvin qui commence à nous en parler.
Oui, alors Hubert Lenoir, que j'ai rencontré, j'ai fait une interview. Et avant cela, quand j'avais écouté le disque, j'avais un côté schizophrène par rapport à ce disque. En fait, je ne savais pas si j'adhérais complètement ou si j'avais du rejet. Alors, rejet, c'est un petit peu fort, mais en fait, au début, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'on essaie, de quoi on essaie de me parler? Quel est le storytelling derrière Hubert Lenoir? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça.
Quelle est l'histoire racontée?
Quelle est l'histoire racontée? Donc, effectivement, vous en avez raconté une partie. Hubert Lenoir, paraît-il que maintenant, c'est une star au Québec. Ce disque, lui, il appelle ça un opéra postmoderne qui sort en concomitance avec le roman de son ami.
Un kilo de dictionnaire, peut-être.
Voilà. Et ce roman, donc l'histoire que ça raconte, c'est l'histoire de Darlene, c'est l'histoire en fait de deux jeunes gens qui tombent amoureux dans une banlieue un peu morne de Québec et qui essaient d'échapper tous les deux à un destin assez morne. Donc c'est finalement une histoire assez simple d'une jeunesse qui essaie de se libérer, de sublimer et jetons notre destin aux orties et allons faire ce pourquoi on est destiné, sinon on va en mourir. Bon, pourquoi pas. Et pour ça, il a choisi un créneau, c'est assez malin, une couleur glam rock en fait, qui est assez maligne parce qu'il n'y a pas grand monde dans sa génération qui le fait. Donc, pourquoi pas.
Il y a peut-être des raisons. Non, pardon, j'arrête de commenter.
Après, non, mais ce qui est, une chose est sûre, c'est que ça colle bien aussi au côté queer qui se libère beaucoup dans la pop culture aujourd'hui et dont Hubert Lenoir fait partie. Enfin, c'est un garçon qui arrive, qui est maquillé, tout ça. Pas pour ça qu'on est forcément queer, mais en tout cas, on y pense forcément. Mais ensuite, quand on entend le disque, on se dit, bon, il y a côté glam aussi, mais j'entends surtout des chansons de variété. Mais de la bonne variété, attention, hein, c'est pas du tout négatif de ma part. Fille de personne qui a un titre avec un refrain extrêmement évident, extrêmement simple mais qui tabasse quoi, qui marche tout de suite, on a en tête très longtemps le titre qu'on vient d'entendre aussi qui fait se costoyer comme ça, ce saxo, ces riffs un peu croxy musique et c'est avec des vouvouzela quand même. Donc voilà, il y a un côté variété. Au début, je me disais, c'est comme du vernis, du fer à paupières à paillettes mis sur une peau finalement très lisse et du gloss mis sur une langue bien pendue. Et puis.
Quelle image. J'essaie de l'analyser là. Je décortique.
Le maquillage, c'est une de mes grandes passions aussi.
Je renvoie au spécial make-up de Grazia.
Mais tout à fait. Non, mais c'est vraiment que ceux qui me connaissent le savent. Et ensuite, ce disque me rattrape parce qu'il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Bah, notamment, voilà, moi, ce côté variété bien faite, je l'aime. Le côté des chansons faciles, efficaces, mais quand elles sont bien faites comme ça, et ce côté glam rock, un peu prog et tout. Alors, n'allons pas trop loin, la production reste très actuelle, mais je trouve ça assez malin et assez, assez intéressant. J'aime bien aussi le côté, l'audace de faire un opéra rock, le fait d'avoir des instrumentaux. Il y a une chanson instrumentale, un titre qui s'appelle Momo, qui est un peu jazz rock comme ça, un peu ondoyant, avec des bruits de vagues que je trouve super beau, mais vraiment. Le titre Recommencer, qui est basé sur une basse, moi j'appelle ça la basse tout moquette, c'est-à-dire c'est très sensuel, c'est on marche sur de la moquette et c'est la même ligne de basse pardon que Dreams de Fleetwood Mac. Là, les basses tout moquette, un motif qui marche toujours. Et donc pour finir, il me rattrape parce que on en parlera peut-être ensuite, mais je l'ai vu en live lui aussi. Et il est très ambitieux, il s'aime beaucoup. Je pense que cette carapace, cette costume glam rock, c'est quelque chose qu'il a choisi pour l'instant. Il en changera peut-être. Mais en tout cas, il assume complètement ce côté-là. Il en fait des tonnes, il y va à fond, il a envie d'être une star. Et c'est très fun finalement. Il y a un côté très, très libre, très assumé, très fun. Et là, ça me séduit complètement. Donc... plutôt pour Hubert Lenoir.
Alors, plutôt quoi, Clémentine Goldstein, concernant Hubert Lenoir?
Moi,
raclement de gorge.
Ouais,
ah, ça commence. Non, mais ça commence.
Non, mais
ça signifie quelque chose.
Je suis désolée, on ne se connaît pas et je vais passer pour une vieille.
Je peux commencer, je peux dire, moi, je suis complètement allergique à Hubert Lenoir, donc mais j'y reviendrai.
Ouais, c'est. Bon, moi je suis absolument pour la variété bien faite, j'adore les mélodies, je ne jure que par les mélodies. Donc je suis tout pour le glam rock, j'ai écouté T-Rex comme tout le monde, j'ai aimé David Bowie comme tout le monde. Ensuite, là en fait c'est exactement ce que vous disiez sur la fin de votre intervention, c'est-à-dire que ce côté, ouais il a beaucoup d'ambition. Et pour moi, ce garçon Hubert Lenoir, il m'est apparu comme une sorte de symptôme hyper triste de la génération Y, si la génération Y existe. En tout cas, il colle exactement à tout ce qu'on se croit savoir de la génération Y. C'est-à-dire un mec qui, en fait, reste complètement à la surface des choses, emprunte ici et là des oripeaux, parce que tout d'un coup, il trouve ça cool. cool ou parce que ça fait de l'effet. C'est-à-dire, il y a 3 ans, il était dans un groupe de folk et maintenant, là, il s'est dit que, en fait, c'était cool de porter du rouge à lèvres. Ouais, les mecs qui portent du rouge à lèvres, c'est cool, pourquoi pas, génial. En fait, on est tout pour. C'est un mec d'aujourd'hui. Mais d'utiliser ça pour déguiser une musique qui, en fait, franchement, devrait être chantée par Jennifer, ça m'énerve. Et cette espèce de provocation pré-mâchée, dont on a l'impression que c'est tout vendu, j'ai l'impression, moi, en tant que journaliste, en plus, que on me met les mots dans la bouche. On me dit, tiens, toi, t'es journaliste, tu vas l'aimer, ça, non? Tu vas pouvoir parler de ci, tu vas pouvoir parler de ça, tu vas pouvoir parler de la question trans, et en même temps du retour du glam et de la mort de David Bowie. Bah, écris-la, ta chronique, elle est déjà toute faite. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et tout ça, en fait, avec en plus des arrangements. C'est-à-dire qu'on dirait du Patrick Coutin, carrément, quoi. C'est pas possible. Et puis, sans beaucoup de distance non plus. C'est-à-dire que ça pourrait être fait avec une immense ironie. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'ironie et ça m'agace. Il emprunte à Flavien Berger, que j'adore, mais il ne fait qu'emprunter. En fait, justement, Flavien Berger, avec ces influences-là, il y a une dose de dérision qui fait que tout passe avec Flavien Berger, je trouve. Et par ailleurs, pour moi, la personnalité, c'est peut-être parce qu'ils sont canadiens et québécois, et je suis désolée du rapprochement un peu facile, mais pour moi, son alter ego de cinéma, c'est évidemment Xavier Dolan. Et cet amour pour le mauvais goût...
Pour lui-même, d'abord.
Pour lui-même.
Pour commencer.
Pour le mauvais goût. Pour la langue et tout ça, mais sauf que chez Xavier Dolan, il y a une acidité qui fait que ça sape tout son amour pour Céline Dion et mélangé à une dose de méchanceté vis-à-vis de lui-même et du monde que là, j'ai pas du tout retrouvé et du coup, j'ai trouvé que je suis restée très en surface.
Bon,
je suis désolée.
On a compris votre joie à la découverte de Darlène. Olivier Lam, à présent, sur Hubert Lenoir. Raclement de gorge aussi, vous voyez. C'est un signe, ça ne trompe pas.
Non, franchement, je ne sais pas où du tout je suis, moi, avec ce disque.
Je trouve que,
effectivement, il y a un truc, c'est qu'on, pour faire un anglicisme horrible, on n'achète pas ce truc tel qu'on nous le vend, parce que, effectivement, c'est ce mélange de glam, de Bowie et de Starmania, ou de. Ne fonctionne pas du tout, c'est-à-dire que il y a un aplomb, il y a une sorte de, on nous vend quelque chose d'un objet exubérant, et on a des mélodies qui sont pas très bonnes, qui sont pas originales du tout, effectivement, et c'est vrai que il y a un côté rhythm and blues joué sur un plateau de télévision, quoi. Il y a ce côté-là, et en même temps, il y a un peu de vie dedans, donc je suis un peu partagé, ça me rappelle, vous souvenez de Jean Leloup? Il avait fait un tube,
pas du tout.
Dans les années 80 qui s'appelait 1990.
C'est Jean Leloup.
Chanteur québécois et aussi un chanteur de rock et que dont on avait.
Mais j'étais au Kazakhstan.
Il a fait un tube en France qui s'appelait 1990, qui est sorti, je pense, 1989, peut-être, je sais pas.
Ah, c'est un concept déjà.
Ouais. Et qui.
Un visionnaire.
C'était vraiment
un truc un peu dance, non,
c'était du rock, un peu dansant, un peu comme ça, et c'était vraiment un météore. C'est-à-dire qu'on connaissait absolument rien de la vie de Jean Leloup, juste on l'a découvert du jour au lendemain, on a découvert ce morceau, et puis on nous a dit c'est une star au Québec, et puis il n'y a jamais eu de suite. Et là, je me dis, ça risque de faire un peu pareil. Il y a un truc que je trouve agréable dans le disque quand même, c'est ce truc dont on peut se rendre compte quand on va voir n'importe quel concert de rock au Québec, dans n'importe quelle ville du Québec, à Québec, à Montréal, à Rouyn-Noranda, au fin fond de la Pampa, c'est qu'il y a une qualité de musicien, de mise en forme qui est hallucinante dans ce pays, et j'ai l'impression qu'on ne cesse de la découvrir tous les 10 ans quand il y a un artiste dit alternatif mais de variété en vérité qui nous arrive du Québec, on est obligé de prendre un peu pour argent comptant. Voilà, moi en vérité je pense rien du tout de ce disque, je trouve que c'est
vous avez réussi à parler 3 minutes quand même, hein.
Et elle a un seul mérite, c'est qu'elle a pas été enregistrée à Paris.
Bon, je suis en train de, du coup, je regarde Jean Leloup, je suis en train de...
Je me souviens très bien.
En 1990.
Alors, sachez qu'il a sorti encore un disque en 2015, donc il en sort très régulièrement.
Je pense qu'il est vivace.
Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent jusqu'à nous. Mais bon, comme il en pense rien, Clémentine n'aime pas, et parce qu'elle aime beaucoup, je peux redire en effet que moi, je vais reprendre votre formule pour dire que le disque ne va pas encore rattraper. Comme ça lui laisse une chance.
Moi aussi.
Mais je crois que je cours assez vite devant lui, en effet. Moi, j'ai vraiment, c'était vraiment presque pénible quand même d'écouter ce disque plusieurs fois, ce que j'ai évidemment fait avec toute l'attention que je porte aux choix qui sont proposés dans cette émission. Mais j'ai pas trouvé de porte d'entrée. Ce disque m'a laissé complètement à l'extérieur avec une certaine dose d'agacement. Et évidemment, j'ai pensé à Xavier Dolan, mais qui parfois a du talent, lui. Et là, j'ai cherché quand même désespérément à y entrer. Mais alors, donc, vous l'avez vu sur scène, oui. Vous me recommandez, parce que je vais donner les dates dans un instant.
Hein, c'est quelque chose.
Par rapport au Villejuif Underground, c'est pas la même chose.
Non, mais je parlais des figures imposées. Et là, c'est vrai qu'il les accumule quand même toutes. Hein. Au bout de la deuxième chanson, il est torse nu. Il embrasse son guitariste à pleine bouche. D'accord. Il sort de scène, justement. Il descend lui aussi dans le public.
Est-ce qu'il jette son peignoir à la fin ou pas?
Non, mais il va chercher des bières pour ses guitaristes pendant le concert. Il fait asseoir tout le monde. Il y a un moment karaoké un petit peu bizarre où il fait chanter ses musiciens du Céline Dion, du Oasis. À un moment, il reprend Nirvana. Il fait tout. Il fait tout.
Mais ça vous a plu quand même?
Eh ben, en fait, il y a eu un pareil.
Et ça vous a rattrapé.
Non, mais je me disais, mais c'est pas possible. C'est vraiment la figure imposée. Ça les enchaîne. En plus, visiblement, il fait ça quand même à chaque concert. Mais au bout d'un moment, un truc tellement fun, tellement décomplexé, tellement. Mais je suis là de toute façon pour me kiffer sur scène et m'auto-kiffer aussi. Et je ne m'en cache pas. Que quelque part, justement, en fait, c'est ce que disait Clémentine, c'est non-ironie totale. Ben moi, elle finit par me séduire, en fait, parce qu'elle est tellement assumée et que ce côté allons-y à fond, je le trouve finalement assez rare que j'ai passé un bon moment. C'est peut-être fun, ce n'est peut-être que juste fun sur scène. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Et moi, c'est l'effet que ça m'a fait.
Ouais. C'était Patrice de Bailly hein, qui a fait un article sur Hubert Lenoir dans Libération qui revenait sur ces différents points du phénomène et qui lui disait aussi que sur scène, ça valait la peine.
Ouais.
Donc, Hubert Lenoir, deux solutions qui peuvent être cumulées. Acheter son disque, bon, l'écouter. En tout cas, ça s'appelle Darlene, c'est chez Simone Records. Et puis, vous pouvez aussi aller le voir en concert. Le 17 avril, il sera à la Maroquinerie à Paris. Le 20 avril, il sera lui aussi à Bourges, dans le cadre du Printemps de Bourges. Et le 26 avril, on pourra aller l'admirer à Bruxelles. Hubert Lenoir. C'est l'heure du coup de cœur d'Olivier Lam. Ce coup de cœur, il est pour I Troll de Megahertz, de Prefab Sprout. C'est une réédition dont on écoute quand même, pour le bonheur, un petit extrait. I'm lost. Yes. Thank you. Olivier Lam, parlez-nous de cet album et de Prefab Sprout. Petit rappel quand même.
Petit rappel, alors comme tous les fans de musique qui se respectent, je suis un immense fan de Prefab Sprout.
C'est sympa pour ceux qui se respectent mais qui ne sont pas fans de Prefab
Sprout. Alors je les invite tout de suite à aller acheter l'intégrale, enfin, en premier Steve McQueen et Jordan The Comeback. Non, c'est un disque que à côté duquel j'étais passé à l'époque en 2003, parce qu'il était pas, il était paru à l'époque sous le nom du leader Paddy McAloon, qui est aujourd'hui le seul vrai membre encore actif de Prefab Sprout, qui est celui qui chante et qui chantait les chansons, qui les écrivait aussi, qui les écrit toujours. Et c'est un disque qui est arrivé à un moment un peu particulier parce que le groupe était vraiment dans un moment, on va dire, un petit peu apocalyptique, à faire des disques moyens et notamment et surtout son chanteur avait des gros problèmes psychiques et physiques, notamment une crise de cécité très grave qui l'a plongé dans le noir de nombreux mois, sachant qu'aujourd'hui il a aussi, il souffre de problèmes d'ouïe très graves, ce qui l'empêche de évidemment de faire de la scène et aussi de d'enregistrer de la musique comme il le voudrait, même si, comme il me l'a dit au téléphone il y a quelques semaines, je dis ça parce que l'article n'est pas encore paru, il a plus de 30 albums quasiment prêts à être à sortir. Enfin bref, je sais pas si on les entendra un jour.
C'est Prince réincarné,
quoi. Grand génie de la pop britannique, qui à ce moment-là en fait faisait une sorte de saut dans le vide avec un disque qui est très très largement instrumental. Voilà, on écoute le seul moment de l'album qui est chanté. Le reste du disque est entièrement instrumental, quasiment symphonique, même si c'est un disque qui a été composé avec vraiment des moyens de fortune, des synthétiseurs, qui s'ouvre par une pièce absolument incroyable, donc qui s'appelle I Troll the Megahertz. Je gère sur les ondes, et qui est une pièce instrumentale de 22 minutes qui est racontée par une voix féminine, et qui aurait été, il disait à l'époque, que dont les paroles étaient des choses qu'il avait enregistrées, des paroles qu'il avait attrapées sur avec une radio CB. En vérité, là, il a confirmé récemment que c'est des choses qu'il avait largement écrites lui-même. Et c'est une réinvention totale. On retrouve à la fois l'univers de Prefab Sprout, donc qui est un groupe de pop. On va dire, à l'époque, on disait sophistipop, c'est-à-dire de pop sophistiqué.
On disait ça,
tout à fait. D'autres groupes comme Aztec Camera ou les Christians.
Mais à Montpellier, on disait pas ça. Hein. Ça n'arrivait pas jusqu'à nous.
En tout cas, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu de la réécriture.
Ouais, je crois.
Mais voilà, un groupe de pop très sophistiqué, extrêmement lettré et extrêmement entraînant avec cette voix absolument fabuleuse de Paddy McAloon. Et c'est un très très grand disque qui a été indisponible pendant de nombreuses années et qui annonce aussi de nouvelles choses du côté de Prefab Sprout, dont le dernier album est sorti en 2013.
Il y
en a un qui arrive a priori à la rentrée. Très grand monsieur qui ne fait pas autant de musique qu'il le souhaiterait, parce que voilà.
Enfin, qui n'en sort pas autant qu'il le souhaiterait.
Mais qui en fait aussi assez peu sa semi-cécité et sa surdité, enfin surtout un problème d'acouphène, fait que il est pris dans un paradoxe terrible pour un grand monsieur de la musique comme lui.
Bon, en attendant un nouveau disque pour la rentrée, on écoute, on achète, on se procure, on offre I Troll the Megahertz de Prefab Sprout chez Sony.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Le dernier disque sur nos platines ce soir, c'est Live in London de Mavis Staples chez Anti Records. Juste avant ses 80 printemps, la diva soul américaine a livré un grand concert qui nous est aujourd'hui restitué en disque. Il a été enregistré à la London's Union Chapel, que Mavis Staples considère comme le meilleur endroit au monde pour chanter, c'est elle qui le dit. On écoute « Can you get to that ?»
I seem to be. Well, I read an old book. days are done. Get you signed with love and kisses. Later come back signed into mission. I wanna know.
I wanna know if you can get to that.
Mavis Staples live in London. Alors, on peut préjuger que Clémentine Goldsad, ce livre, ce disque-là, vous l'avez aimé puisque vous l'avez proposé, à moins que vous ne soyez une méchante qui vouliez dire du mal d'une vieille dame qui fait des concerts à 80 ans.
Non, je suis pas méchante.
Bon.
Pas de... La preuve, j'aime Mavis Staples.
D'accord. Alors, c'est qui Mavis Staples, qui est pas la, l'immense star qu'elle est chez elle? Elle est pas vraiment aussi connue que ça en France.
Non, alors Mavis Staples, pour le faire court, maintenant qu'Aretha Franklin est morte, maintenant que tout le monde est mort, ah, il
c'est
reste.
C'est dur pour elle, c'est méchant en fait.
Quand tout le monde sera mort, bah, elle, vous venez de dire, elle vient de fêter ses 80 ans. Quand tout le monde sera mort, ou alors comme les chanteurs de Sophistie Pop auront perdu l'ouïe et la vue, il restera Mavis Staples.
D'accord.
Qui est bon pied, bon oeil. Mavis Staples, c'est une chanteuse qui est née à Chicago, qui a été formée à la chanson dans l'église noire américaine, et qui ensuite, dans les années 60-70, avec ses sœurs, a formé un groupe qui s'appelle les Staple Singers, et qui est devenu un des fleurons du label Stax. Et elles ont notamment chanté des hymnes, notamment du mouvement pour les droits civiques. Elles étaient extrêmement engagées pour la cause. Elles ont chanté Respect Yourself, I'll Take You There, When We Will Be Paid. Elles ont vraiment, c'est-à-dire que c'était, elles ont un peu fourni la bande-son des droits civiques. D'ailleurs, leur père, qui était Pop Staples, qui était leur manager, leur disait « If he can preach it, we can sing it ». Qui était « S'il peut le prêcher, on peut le chanter ». Voilà, c'était un peu le...
Pas mal la, comme...
Pas mal. Elles étaient un des groupes préférés de Martin Luther King, du Dr. King, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, Mavis Staples, dans les années, à la fin des années 60, en 69, a sorti son premier album solo. Et ensuite, a fait une carrière solo assez exceptionnelle. Elle a notamment été très proche de Bob Dylan à un moment.
Il n'a pas l'air d'accord, Olivier, là, mais il va intervenir.
Non, je veux pas. Non, exceptionnel, non, elle a tout foiré.
Laissez finir.
Pas artistiquement, mais je veux dire en termes de
carrière.
Non, mais elle a fait des belles choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est.
Qu'est-ce que vous appelez tout foiré?
Échec sur échec.
Échec commercial. Si échec commercial, c'est tout foiré, bon.
Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle aurait. Pendant qu'Aretha Franklin était une superstar, enfin, bref.
Oui.
Une sorte de descente aux enfers jusqu'à ce que Prince aille la chercher
descente aux enfers, carrément.
Alors, bref, bon. Déjà deux visions.
Non, et ensuite, elle a effectivement ensuite eu une sorte de revival. Bon, s'il y a revival, il y a divival.
Renaissance.
Une renaissance.
Divival, je ne sais pas le faire.
Non, c'était un néologisme.
Tomber aux enfers.
Anglicisme, oui.
Ouais.
Elle a ensuite sorti plusieurs albums à partir du milieu des années 2000 sur le label Anti, produit notamment par Jeff Tweedy, puis M. Ward. Elle a collaboré avec Gorillaz, avec Arcade Fire. C'est devenu la grande dame de la soul que tout le monde s'arrache. Voilà.
Mais ce n'est pas la version d'Olivier Lame, donc.
Non, moi je l'ai découvert parce que j'étais fan de Prince et qu'il a produit pour elle plusieurs disques. Elle l'a accompagné aussi sur des, à l'époque de ce très grand disque, LOL, qui s'appelait Gravity Bridge. Et il fait partie des gens qui l'ont un peu, voilà, remise un peu en selle. Après, elle a des tentatives disco, un peu foirées.
Qui n'en a pas eu.
Oui. Qui n'en a pas eu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été compliqué pour elle, je veux dire, après.
D'exister. Après les artistiquement.
Voilà, artistiquement et aussi, on va dire, enfin bref.
Dites-le. Dites-le.
Non, mais ce que je veux dire, c'est
le fond de votre pensée.
C'est beaucoup de rater la carrière de Mavis Staples, ce qui explique aussi pourquoi, sur le tard, on en a fait cette espèce de héroïne soul, gospel, parce qu'elle a une voix assez incroyable, beaucoup moins large en termes de tessiture que celle d'Aretha Franklin, pour
elle
ne pas la citer.
Elle a une voix spectaculaire quand même. Mais, beaucoup plus profonde que celle d'Aretha.
Mais elle est devenue un peu un objet aussi, depuis le milieu des années 2000, un peu chic, depuis qu'elle a été récupérée par la belle taille, c'est-à-dire qu'on lui fait des albums, notamment Jeff Tweedy de Wilco, qui est quelqu'un que j'aime énormément, mais qui lui fait des albums un peu sur le modèle des albums un peu crépusculaires de Johnny Cash. Il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là. Je n'enlève absolument rien, tout ça n'enlève absolument rien au talent de cette grande chanteuse. Moi, là, on est sur un album live, donc on n'a pas l'écran aussi. On va dire aussi chic et aussi j'ai un mot un peu vulgaire, chiadé, pour dire le mot en question. Mais on est quand même en présence quand même de. Il y a ce troisième morceau qui commence par une qui s'appelle What You Gonna Do, qui commence par une introduction où elle dit Greetings from the Windy City, enfin voilà, salutations de Chicago, la maison du la ville du blues, etc. Elle cite Muddy Waters, etc. Et son père Pop Staples, et le public dit yeah. Et alors là, pour moi, c'est vraiment le bourdon direct. C'est vraiment les concerts que j'ai essayé de fuir dès que j'ai eu 12-13 ans, parce que c'est on est en présence d'une gloire du funk, de la soul, du blues qui vous donne l'impression en le chantant et en étant accompagné par des petits jeunes que vous êtes passé, quand vous êtes né trop tard en fait. Elle vous renvoie à la gueule tout ce que vous avez raté et c'est un peu comme un live des Rolling Stones à la télé, c'est-à-dire on ne voit que ce qui reste, on ne voit que ce qui manque. Moi je alors il reste la voix, mais on peut parler des arrangements, le guitariste est insupportable, enfin il y a ce truc de concert de funk qui est c'est devenu le robinet d'eau tiède pour faire chanter toutes les générations et moi là ce qui est étonnant d'ailleurs c'est qu'elle joue que des morceaux récents et moi j'ai l'impression d'écouter
pas que il y a une reprise des Talking Heads qui est bien.
Pourquoi? Parce que c'est chic, je sais pas trop.
Enfin, non, parce qu'il l'a fait avec les Staple Singers, je crois, il la faisait déjà en 84
dans et il y a des chansons à elle hein.
Ouais.
Bon, je suis un peu méchant, mais.
Let's Do It Again, qui a été un énorme
tube. Il y a un côté fête de la musique,
tube.
Voilà, c'est ça que je veux dire.
Oh, un côté fête. Non, il y a un côté gospel. En fait, vous confondez gospel et fête de la musique, pardon, mais.
Mais
quand elle dit au public, est-ce que vous êtes là, et que le public répond hier, c'est un truc de gospel.
C'est l'église, quoi. C'est Bohemian Rhapsody. C'est
l'église noire dans laquelle elle est née. Bah non, mais attendez.
Parce qu'elle est une pot de vin. La troisième voix, la voix de la sagesse.
Je commence à m'interroger, est-ce que la fête de la musique ne serait pas notre gospel, je ne sais pas.
Moi, je
suis pas client des lives de manière générale, en fait. C'est pas des disques qui m'intéressent énormément, parce que je trouve rarement quelque chose d'intéressant et de nouveau à me mettre sous la dent. Je trouve que les arrangements rendent le disque un petit peu monotone. En revanche, là où je suis pas complètement d'accord avec Olivier sur le côté, j'ai l'impression d'assister un peu à une grand-messe, c'est que ça aurait pu être une grand-messe dans le sens où on aurait pu avoir des débauches de cuivre, de chœur qui l'auraient complètement noyé. On aurait pu avoir un truc beaucoup plus spectaculaire qu'on peut avoir comme ça quand il y a des icônes qui viennent, qui chantent. Moi, un truc auquel je suis assez sensible, c'est que les arrangements sont assez sobres, assez dépouillés. Effectivement, malheureusement, ce guitariste que moi aussi je trouve complètement insupportable avec ses solos de blues et plus carottes super stridents, là, c'est pas possible. Mais
c'est quand même une chose qui est faite pour mettre en valeur sa voix.
Exactement, voilà. Et en fait, du coup, il reste quand même sa voix qui est incroyable, ce rugissement, ce truc qui vient comme ça de la gorge, des tripes, qui est quand même assez incroyable. Et parce que je crois qu'elle fêtait ses 79 ans ce soir-là. Elle aura ses 80 l'été prochain. Elle se balade quand même dans ces chansons-là.
Ah oui,
elle se balade complètement, quoi. On sent qu'il n'y a pas de chose qui est faite trop pour lui donner du confort. C'est elle qui donne le ton et tout. Et du coup, on ne peut être qu'impressionné. Alors, c'est difficile d'être méchant avec ce disque parce qu'on ne peut qu'être impressionné face à Mavis Staples, à sa carrière. Moi, c'est vrai que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas forcément. J'ai découvert des anecdotes, le fait que Bob Dylan l'ait apparemment demandé en mariage.
Elle a dit non,
qu'elle est divorcée et refusée d'avoir des enfants pour continuer à tourner à 80 ans. Il paraît qu'elle fait encore 200 concerts par an. Enfin, c'est quand même un parcours de musicienne et de femme assez exceptionnel. Alors voilà, c'est un live qui a ce côté un petit peu mausolée, un petit peu hommage vivant. Donc moi aussi, comme Olivier, je suis pas hyper sensible à ça, mais on peut que avoir de l'admiration pour cette voix qui a changé, mais qui reste quand même hyper puissante. Et j'ai pas l'impression d'une voix en fauteuil roulant, en fait, qui serait portée par une orchestration peu obscène. Donc voilà, je retiens ça quand même.
Ouais, moi j'aime beaucoup les lives, quand ils ont quelque chose à donner. Et là, ça me donne... Alors, je l'écoute pas en entier. C'est pas un disque que je vais mettre pour l'écouter. Mais j'écoute n'importe quel morceau. Ça me met plutôt de bonne humeur. Ça me donne envie de sourire. Ça donne plutôt de l'entrain. En fait, ça me fait du bien. Moi, c'est une musique qui me... ouais, qui me cajole, qui me câline. Enfin, je sais pas, quelque chose de... Plutôt que de prendre une vitamine C, je peux écouter un morceau du live de Mavis Staples et peut-être ça me fait un peu la même chose.
Bah là, le funkadélique qu'on a entendu quand même, effectivement, c'est vitamine C, quoi.
Ouais, voilà.
Et franchement, faut le prendre pour ce que c'est, peut-être pas plus. Au cœur du mois de février, vous tournez le dos à la vitamine C,
Olivier Lam?
Non, et d'ailleurs, j'en trouve dans Only for the Lonely. Voilà, c'est un disque que je connaissais pas, j'ai téléchargé sur Apple Music. J'ai passé plus de temps à écouter ces vieux disques que je ne connaissais pas forcément que, voilà.
Bon, c'est l'occasion aussi, avec cette sortie-là, c'est l'actualité, on en parle, les gens se disent, tiens, Mavis Staples, faire comme vous venez de faire, Olivier Lam, c'est-à-dire aller chercher sa discographie, parce qu'il y en a.
Ça m'interroge sur, voilà, on a ce Revival Soul qui a été porté par les Dap Kings, qui est ce backing band que tout le monde s'arrache, etc.
Tellement mot anglais dans la même phrase.
Les Dap Kings, non, backing band, ce groupe, comment on dit?
Vous avez des Revival, backing band, enfin, voilà.
Ouais, on parle de...
Française,
mais non, qui est ce groupe que voilà, que tout le monde s'arrache, parce qu'il rejoue à l'identique, la musique de Stax, de la Motown, telle qu'on l'a joué à l'identique, et d'ailleurs, bon, je me dis que si elle avait fait un disque avec eux, j'aurais été encore plus sévère, donc en fait, je retire.
Mais c'est ça, musique, elle était à la création de Stax.
Non, mais les gens qui refont, c'est comme le groupe qui fait...
Si elle est accompagnée de gens qui le refont à l'identique, puisque...
Comme
voilà,
les gens qui font les Beatles, là, c'est des trucs horribles, enfin, c'est...
Ouais.
On parle pas de ça, là, on parle de quelqu'un qui est sur scène, qui a peut-être des instrumentistes qui sont pas toujours du meilleur goût, mais qui vraiment l'accompagne.
Non, mais moi chose je parle juste du feeling de ce disque qui
du ressenti.
Ce ressenti de ce disque qui me file un peu le bourdon. Voilà.
Très bien. Tant que c'est pas le blues. Mais là, je vous l'aurais laissé ce mot-là. Live in London de Mavis Staples chez Anti, parce que moi je dis. Je sais pas en taille. Anti Records. Avant de conclure, c'est Sarah Dyan qui nous a rejoint pour la séquence du jeu de la dispute. Sarah Dion, bon, la famille. Elle nous rappelle tout d'abord, Sarah, la question du jeu d'hier au soir.
La question d'hier était: dans quelle ville française trouve-t-on un musée intégralement dédié à l'œuvre de Marc Chagall? Et la réponse est Nice.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour aller découvrir le spectacle 4 propositions de Benjamin Verdon. Ce sont des places à gagner pour la représentation de dimanche 17 février à 20h30. C'est au Théâtre de la Bastille à Paris. Quelle est la question?
De quel personnage de fiction l'actuel Théâtre de la Bastille portait le prénom à ses débuts?
J'ai même pas compris. De quel personnage
le
de fiction?
Le nom du théâtre.
Ah, l'ancien nom du théâtre. D'accord, ça y est, j'ai compris. Votre réponse, si vous l'avez, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter ou podcaster nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Nous serons en compagnie de Sally Bonne, Mathilde Villeneuve et Florian Guetté. À notre affiche, on danse. Point d'interrogation. Donc j'essaye de faire entendre le point d'interrogation. C'est le titre de l'exposition en ce moment visible au MUCEM à Marseille. Des attentions, une exposition collective à voir au Crédac, le Centre contemporain d'Ivry. Il y aura un coup de cœur de Mathilde Villeneuve pour Affective Utopia, la galerie Cadiste. Et puis cette terrible question dans le petit salon de Lucine Comeau: trop de Picasso tue Picasso ?